Abby. Nous allons tourner pour nous dans notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 13. Jérémie, chapitre 13. Pour ce dernier sermon, avant que je vous quitte pour quelques semaines, j'ai décidé d'arrêter la série sur 1 Corinthiens pour vous donner pour vous parler au cœur et vous donner une petite exhortation pour ces semaines à venir. Et donc, suivez avec moi ce passage tellement poignant de la parole de Dieu et tellement important pour nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, dit Jérémie, va, tu t'achèteras une ceinture de lin ou un pagne de lin et tu la mettras à tes reins. Mais tu ne la tremperas pas dans l'eau. Faut pas le laver, il faut qu'il puisse devenir souillé et sale. J'achetai la ceinture ou le pagne selon la parole de l'Éternel et je l'ai mis à mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est à tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, donc à 250 km, et là, cache-le dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, cette rivière, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Longtemps après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je repris la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Mais voici que la ceinture était abîmée, pourrie. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est de la même manière que je détruirai l'orgueil de Juda, le grand orgueil de Jérusalem, ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, qui va selon l'obstination de son cœur et se raille à d'autres dieux, pour rendre un culte et se prosterner devant eux, qui deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Et voilà le verset important. En effet, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, je m'étais attaché à moi-même. Toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle de l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma parure. Mais ils ne m'ont pas écouté. Je vais retraduire plus exactement le verset 11. En effet, comme la ceinture, cette sorte de pagne qu'on portait ici pour un homme, comme le pagne ou la ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi j'ai fait que toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda s'attachent à moi, afin qu'elle soit pour moi un peuple, un nom, une louange et une parure. Mais ils n'ont pas écouté. Nous allons, dans un premier temps, juste parler de cette traduction du verset 11, qui est malheureuse dans la traduction française. Et je vais vous expliquer pourquoi nous allons donner le bon sens à ce verset. Donc, vous avez vu que dans la traduction française, il est dit, en effet, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à moi-même la maison d'Israël et la maison de Juda. Ici, dans la traduction française, c'est Dieu qui fait l'objet, c'est Dieu qui attache. Okay? Sauf que ce mot en hébreu, attaché, se trouve 51 autres fois dans l'Ancien Testament et jamais Dieu n'est le sujet qui accomplit cette action. Qui peut se traduire, se cramponner, s'accrocher, s'agripper à. Ce n'est pas une action de Dieu. c'est une action de quelqu'un qui est dépendante. D'accord? Donc, quand vous voyez dans les traductions, par exemple en anglais, toutes les traductions disent quelque chose comme ceci, comme je l'ai traduit, comme le pagne s'accroche à la taille d'un homme, j'ai fait que toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda s'accroche à moi. D'accord? Ça, c'est le vrai sens de ce texte. Et vous le voyez à la fin du verset 13, parce que le verset à la fin, on dit, mais ils n'ont pas écouté. Ça n'a pas de sens, sauf s'il y a une action qu'Israël aurait dû accomplir. Israël était fait pour s'accrocher à l'Éternel, était appelé à s'accrocher, à s'agripper à l'Éternel, comme le pagne s'agrippe au rein d'un homme. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas voulu faire cela. Donc nous voyons que l'action, c'est Israël qui est le sujet de l'action, c'est vous, c'est le peuple de Dieu qui est appelé à cela. Nous voyons donc ce verbe souvent utilisé dans ce sens dans l'Ancien Testament, Deutéronome 10, 20, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu lui rendras un culte, tu t'attacheras à lui. C'est ça, tu t'agripperas à lui et tu prêteras serment par son nom. Ou bien dans le psaume 63, je m'attache à toi de toute mon âme, je m'agrippe à toi de toute mon âme, ta droite me soutient. Vous voyez combien ça peut pas être Dieu qui s'attache parce que c'est Dieu qui soutient, c'est nous qui nous agrippons. Et donc voilà, comme un nageur s'agrippe au sauveteur, qui est venu le sauver. Vous voyez, il peut plus nager, il est épuisé, il s'agrippe au sauveteur. Comme l'enfant s'agrippe à sa maman quand sa maman l'amène par un endroit qui lui fait peur. Et nous voyons, c'était comme l'ourson koala, vous avez vu ces ours en Australie, et on les montre souvent à la télé, n'est-ce pas, cet ourson qui s'agrippe à sa maman, c'est incroyable, la dépendance, la confiance. Le texte nous dit que Dieu nous a fait pour justement que nous soyons définis par cette sorte de relation avec lui. Donc, s'attacher, ça va, mais ce n'est pas s'attacher dans le sens français de s'engager à. Je suis très attaché à la République. Ce n'est pas où je suis très attaché à mon sport. Un homme peut être attaché à une association qui aide les démunis, mais il n'est pas dépendant de cette association. Et s'attacher, ça ne donne pas suffisamment pour moi cette idée de dépendance. Donc moi, je vais vous dire aujourd'hui, s'agripper, s'accrocher à l'Éternel. Et donc, nous allons le traduire comme le pagne s'accroche à la taille d'un homme, j'ai fait que toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda s'accroche à moi. Voilà pour la partie un peu technique de notre message aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler de nos vies. D'accord? Et la première chose que nous voyons dans ce verset, c'est que Dieu vous appelle plus fondamentalement que toute autre chose à vous agripper à lui, dépendamment, comme votre seul refuge, secours, et source de bien et de bénédiction. Maintenant, vous voyez que le pagne, à l'époque, le pagne d'un homme, c'est pas comme la pagne que la femme porte de manière ample et lâche. Non, ce pagne, c'est un pagne serré, okay, que l'homme prend et il serre, parce que s'il veut travailler, ça, il doit être tenu, donc par ce pagne. Et cette vie de foi, c'est le grand péché d'Israël à l'époque, et c'est souvent notre grand péché, n'est-ce pas? Nous pouvons voir dans le livre de Jérémie, si vous voulez juste un moment regarder un peu le contexte d'Israël, parce que nous allons nous retrouver là. Regardez dans le chapitre 2, versets 11 à 13. Et nous allons voir pourquoi Dieu dit que c'est ça le problème principal d'Israël à l'époque. Chapitre 2 et verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, croit qu'ils ne soient pas des dieux, parce qu'on les a créés, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide? Cieux, soyez désolés à cause de cela, frémissez, desséchez-vous. Il parle aux cieux de se dessécher, tellement ce péché est grave. Oracle de l'Éternel, car mon peuple, regardez ceci, a doublement mal agi. Un péché a deux facettes. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Première partie du péché. Deuxième partie, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Pouvez-vous imaginer de vivre à côté d'une source qui jaillit constamment avec de l'eau pure, qui est une source incroyable de bonne eau pour vous, et vous abandonnez ça pour vous fabriquer des citernes pour tenir une eau stagnée. Et même vos citernes sont crevassées et ne retiennent pas l'eau. C'est vraiment une folie incroyable. Mais c'est ce que vous et moi, on fait lorsqu'on se détend de Dieu, comme, et tenez bien, comme une source de tout ce qu'il nous faut. C'est ça le problème dans nos vies et dans la vie d'Israël. Dieu non pas en tant que législateur, mais Dieu en tant que source de ce qu'il nous faut, de tout ce qu'il nous faut. D'accord? Donc, c'est le problème constant d'Israël. Si vous regardez dans les versets 31 et 32 de ce même chapitre 2, regardez. Je suis obligé maintenant de prendre les lunettes. Je fais le virage maintenant parce que cette écriture est... Et vous, gens de cette génération-ci, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi? La jeune fille oublie-t-elle sa parure? La fiancée, sa ceinture? Oh, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Dieu se présente non pas comme celui qui simplement fait autorité, mais celui qui bénit, qui embellit, n'est-ce pas? Et comme pour dire, tout bien, tout ce qu'il vous faut, chers amis, ça vient uniquement de Dieu lui-même, de sa bonté, de ce qu'il est, de ce qu'il fera pour vous lorsque vous vous confiez en lui. Donc, c'est vraiment le problème d'Israël. On va regarder juste un passage de plus dans le chapitre 17. En fait, c'est... Chapitre 17 et verset 5. Ainsi parle l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui ainsi écarte son cœur de l'Éternel. » Intéressant. Il est comme un genévrier dans la steppe et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'âme qui se confie en l'Éternel et dans l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, etc. Donc vous voyez que constamment le Seigneur revient sur cette question avec Israël. C'est vers moi qu'il fallait regarder pour tout ce qui concerne votre sécurité, votre protection, parce qu'il y a Babylone qui menace en ce moment-là, pour tout ce qui concerne votre bien, votre réjouissance, votre bonheur. C'est moi qui suis la source de tout cela. Et pourtant, vous vous tournez vers autre chose. Jésus republie cet appel envers vous, les chrétiens, mais il change la métaphore. Ce n'est plus un pagne qui s'accroche au rein d'un homme. Jésus dit, si vous ne devenez pas comme des enfants vis-à-vis de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Une vie d'enfant est une vie de constante dépendance. Le petit enfant vit par dépendance vis-à-vis de ses parents. C'est ce qui le caractérise. Il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas se faire à manger, il ne peut pas savoir ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation. Son regard est toujours... Il s'agrippe à ses parents. Il s'accroche à ses parents pour tout. Tout comme Théodora est accrochée à Kalgan en ce moment. Et ce que vous et moi, nous devons comprendre dans ce texte, c'est que c'est là l'appel principal de Dieu envers vous. Avant toute autre chose, avant un appel d'être moral, d'être bon, d'être pur, ce n'est pas ça la première chose. La moralité est toujours un fruit de la foi. Et lorsque vous inversez ça, vous êtes cuit. La moralité vient de Dieu. Être bon, ça vient de Dieu. Donc il faut avoir ce contact avec Dieu d'abord. Et donc il faut s'accrocher à lui pour être bon. Pas être bon pour s'accrocher à lui. Et souvent nous sommes tellement préoccupés par la moralité que nous ne sommes plus dans cet appel premier. Je vous ai fait pour vous accrocher à moi comme un pagne s'accroche au rein d'un homme. C'est l'appel principal. Et vous savez que je peux vous le prouver comme ceci. Si c'est juste la moralité, le christianisme, soyez bon. Dieu est bon, soyez bon comme lui. Si c'est juste ça. Alors vous vous mettez à essayer d'être très moral. Et quand vous êtes très moral, vous êtes différent des autres? Pas forcément. Niki a un étudiant musulman en ce moment qui est extrêmement engagé à l'islam. Plus que tout autre musulman que nous on n'a jamais rencontré. Lorsqu'il fait Ramadan, il fait 6 jours de plus. Parce que dans les règles, si tu fais 6 jours, pas 5, 6 jours de plus, ça compte comme si tu avais fait le Ramadan toute l'année. Et là, il fait des excès. Il fait l'excès dans tout ce qu'il fait. Il craint tellement l'enfer, selon ses dires, qu'il est extrêmement moral. Extrêmement moral. Dans un sens humain. N'est-ce pas? Et en tant que chrétien, si vous tentez d'être très très moral sur un certain plan, ça donne la gloire à qui quand vous arrivez? Ben vous. Mais si votre vie n'est pas au sujet de ça principalement, mais plutôt au sujet de s'accrocher au Dieu vivant comme la source de tout bien, de toute joie, de toute paix, de toute pureté, de tout amour, de tout refuge, de toute sécurité, de toute protection, de toute sagesse. C'est ça ma vie. Qui aura la gloire quand vous vivez comme ça? Cette vie-là va faire éclater un nom à l'Éternel. Parce que votre vie même va donner le message à tous les hommes, ce Dieu est incomparable. Vous voyez? C'est pour ça que dans le verset, il a dit, j'ai fait accrocher à moi toute la maison de Juda et d'Israël pour qu'il soit pour moi un nom, une louange et une gloire. Je vous explique comme ceci. Nous avons une amie qui est secrétaire médicale à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Et quand on a besoin d'un médecin spécialisé, c'est elle qu'on appelle toujours, parce qu'elle a les contacts. Et donc, elle demande tout de suite auprès d'elle, auprès du personnel de l'hôpital qu'elle connaît, Qui est le meilleur médecin en neurologie ou je sais pas, dans telle spécialité? Et vous savez ce qui se passe. Les uns et les autres disent, et souvent, tout le monde dit la même personne. Ah ouais, pour ça, c'est pour la pédiatrie, c'est docteur Intel. Là, c'est le top. Vous voyez? Et les gens qui le disent, ça, c'est des gens qui sont allés chez lui. C'est le personnel de l'hôpital qui savent, de par les patients, qui est bien. Et eux-mêmes, lorsqu'ils ont des besoins, ils ont senti, ils ont vu que ce médecin est bon. Et maintenant, quand on pose la question, qui est bon dans cette spécialité, tout de suite, ils vous disent. Vous disent. Et eux, ce personnel de l'hôpital, ils refusent d'aller à qui que ce soit d'autre. Ils s'agrippent, ils s'accrochent à lui seul, parce que lui, c'est le top. Et vous savez ce que ça fait? Ça lui donne un nom. Ça lui donne un nom. Tout le monde, il est une louange et une gloire. Mais comment est-ce qu'il obtient cette gloire? Par cette fait que les gens s'accrochent à lui. C'est un message. Il est incomparable. Vous voyez votre appel? C'est assez incroyable ce verset, n'est-ce pas? J'ai fait. C'est pas votre idée. J'ai fait que tout le peuple de Dieu s'agrippe à moi, comme un panier s'agrippe au rein d'un homme, afin que je sois, il soit pour moi un nom, une louange et une gloire. Le troisième point, et on tire vers la fin, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais je dois me demander et vous demander pourquoi est-ce que nous n'embrassons pas cordialement et joyeusement cette vie de s'agripper affectueusement au Seigneur, pour tout et en tout temps. Il semble que c'est tellement beau comme vie, n'est-ce pas? Et le verset nous dit à la fin, mais ils n'ont pas écouté, n'est-ce pas? Les Juifs se sont détournés d'une vie de confiance dans l'Éternel à cause d'un cœur incrédule. Et vous savez que l'incrédulité qui vous guette tout le temps, cette tendance de ne pas vivre dans ça, a deux facettes, deux faces. La première face, c'est que on se méfie du Seigneur. On se méfie. On n'a pas confiance qu'il va vraiment nous répondre, nous exaucer, être là au moment où on a besoin, être tout ce qu'il nous faut, être suffisant. N'est-ce pas? Oui ou non? C'est pas ça? Vous ne le voyez pas dans votre cœur? Ah, ça c'est la première facette. On se méfie de l'Éternel. Et quand on se méfie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers quelqu'un d'autre en qui on pense trouver ce qui n'est pas dans le premier. Et c'est ça le sens du verset que je vous ai lu tout à l'heure. Mon peuple a doublement mal agi. Il s'est détourné de moi la source d'eau vive pour aller vers des citernes crevassées. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous faisons. Pour Israël, c'était quoi les citernes crevassées? C'était deux choses. C'était d'autres dieux. OK? Et c'était les hommes. Maudit celui qui se confie en l'homme et qui fait de la chair. C'est-à-dire, je me confie en un autre homme. Vous pouvez vous confier en un pasteur. Maudit soit celui qui se confie en un homme. Quand il y a la source d'eau vive, le Dieu éternel, qui se fait notre refuge. Vous pouvez peut-être me dire combien ça marche chez vous, mais je vois que chez moi, l'incrédulité est incroyablement subtile. Souvent, je suis en train de vivre dans l'incrédulité par rapport à quelque chose dans ma vie. Là, je ne m'accroche pas au Seigneur et je ne me rends même pas compte. Jusqu'à ce que la parole vienne, l'esprit vienne me montrer que Là, dans ce domaine, tu fais confiance à toi-même. Tu fais confiance à ceci, à cela. Tu fais confiance au médecin. Tu fais confiance à des combines que tu as trouvées sur l'Internet. Tu fais confiance à plein de choses, mais tu n'as même pas prié à Dieu à ce sujet. Même pas prié. N'est-ce pas? C'est incroyable. Et juste pour vous donner une petite illustration concrète qui remonte loin dans ma vie, quand j'étais jeune chrétien en Afrique, j'avais été chrétien depuis 4 ou 5 ans, et j'étais jeune missionnaire, entre guillemets, je n'aurais jamais dû être missionnaire à cet âge, mais je l'étais. Et j'étais tracassé, mais tracassé par le problème de la sanctification. Et je cherchais partout une clé, un secret de la vie chrétienne qui, une fois que je l'ai trouvé, j'étais sûr que je n'allais plus pécher, ou presque plus pécher. D'accord? Et donc, je lisais tous les livres qui parlaient de le secret de la vie chrétienne, qui donnaient une idée qu'il y avait juste un truc qu'on n'avait pas vu et que c'était ça qu'il fallait. N'est-ce pas? Et je me souviens que j'étais au Nigeria dans une conférence de l'organisation donc à laquelle j'appartenais. C'était pour les équipiers à plein temps, pour se ressourcer. On écoutait des sermons d'un pasteur chaque matin, chaque soir. Et dans les après-midi, on était un peu libre. Et il y avait une grande librairie chrétienne dans ce centre missionnaire qui était là. Beaucoup de livres et beaucoup de titres que j'avais vus, des références de ces grands qui ont connu le secret et qui ont écrit des livres là-dessus, mais j'ai jamais pu mettre la main sur un de ces livres. Ah, je me régalais. Donc les après-midi, les autres jouaient au volley, moi je fouillais dans tous ces livres en cherchant où est ce secret, où est ce secret. Et à la fin de la semaine, j'étais abattu. J'étais abattu parce que je luttais toujours avec les mêmes péchés intérieurs que j'avais toujours eu. Et un jour, je suis allé dans ma chambre à coucher et je me suis mis à genoux devant le Seigneur, juste, chers amis, juste fatigué. Fatigué de la vie chrétienne, fatigué de la lutte, fatigué de cette recherche interminable pour trouver le secret. Et pendant que je priais, baf, le psaume 23 est venu dans ma tête, mais avec une puissance, une réalité. Et c'était pas une voix audible, mais ça aurait pu. C'était tellement clair, cette vérité pour moi. Le Seigneur est ton berger. Je m'occupe de toi. Je t'enseignerai tout ce qu'il te faudrait en son temps. Et mon âme était simplement pris par Dieu qui me disait, c'est moi qui prends soin de toi. Arrête de te confier dans les hommes, dans les livres, de chercher des combines par toi. C'est moi. Je t'aime. Je sais ce que dont tu as besoin. Je le ferai. C'est subtil, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que j'étais en train de pécher en cherchant dans ces livres. Mais toute cette démarche était issue d'une incrédulité vis-à-vis de Dieu. Puisque Dieu ne veut pas me montrer, moi je vais aller chercher moi-même. N'est-ce pas? L'incrédulité est incroyable. Donc, comment est-ce que vous pouvez savoir si vous ne vous accrochez pas comme un pagne au Seigneur? D'abord, quand vous êtes plein de soucis. D'accord? Vous êtes paniqué, vous êtes inquiet, vous êtes soucieux, vous essayez de trouver les combines pour vous sauver vous-même. Deuxièmement, quand votre vie chrétienne n'est pas principalement dans cette affaire de foi, de confiance, mais plutôt dans des efforts constants, dans une obsession d'être correct, d'être bon. de sorte que Dieu lui-même est obscurci. Et la vie de confiance et de dépendance est secondaire. Quand la foi devient secondaire, vous avez abandonné l'évangile. Bien sûr, l'appel à une vie sainte est primordial. Mais comme j'ai dit, c'est toujours un fruit. Et quand cette moralité sans foi s'installe, nous devient très correct, très officiel, très tendu. Je dois être un bon chrétien. Et ça, ça sent le légalisme, ça sent le pharisien, ça sent pas l'évangile. Je voudrais dire aux gens ce que l'Ecclésiaste dit, ne soyez pas trop justes. Vous connaissez ce verset dans le livre de l'Ecclésiaste? Ne soyez pas trop justes. Il y a un sens à cela. C'est pas aller pécher, mais il y a une manière d'être juste qui vous rend injuste. On devient policier dans notre comportement avec nous-mêmes et avec d'autres. J'ai été parfois dans des camps de jeunes que j'ai organisés avec d'autres pasteurs, et il y a toujours un jeune ou deux qui sont très policiers. Ils ont une manière très policière avec les autres. Ah, cette fille et ce garçon parlent ensemble, ils ne devaient pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Ils vont aller policer ça. Je vous dis, il y a des péchés beaucoup plus graves au fond de nous que ça, n'est-ce pas? Même ton péché d'aller là-bas, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez, excusez-moi pour cette parenthèse, mais je ne vais pas vous voir pendant 6 semaines, donc je me permets. Vous vous rappelez qu'une fois, les disciples avec Jésus font du chemin ensemble, et quand ils arrivent au lieu destiné, Jésus dit, qu'est-ce que vous discutiez en chemin? Parce qu'il savait qu'il discutait qui était le plus grand. Vous savez ce qui me fascine dans ça? C'est qu'il savait en chemin qu'il discutait ça et il n'était pas allé les policer. Parce que son Dieu est assez grand pour qu'il puisse les laisser pécher. Les laisser pécher. Il y a certains péchés qu'on ne les laisse pas faire. S'ils sont en train de se bagarrer physiquement, on les arrête. Je suis d'accord. Mais on ne police pas tout. Et il y a un moment de prendre quelqu'un, de lui parler d'une manière évangélique. D'accord? Dans le camp, je peux avoir besoin de prendre un jeune, parfois, si son comportement n'est pas correct avec les filles, pour lui parler à un certain moment. Mais je sais que son problème est beaucoup plus profond que les filles. Si je parle juste des filles, je ne vais pas l'aider. Vous voyez, le problème, c'est que lorsqu'il y a autre chose qui devient premier, ça nous tord. Nous devenons quelque chose qui n'est pas tout à fait utile et qui ne reflète pas la manière que Christ lui-même adopte. D'accord? Et là, je ne suis pas en train de parler de l'indulgence par rapport au péché. Je suis en train de parler de la meilleure manière de faire face au péché. Si vous policiez vos enfants trop, vous allez leur gâcher la vie. Ils vont être des rebelles incroyables. Mais si vous êtes indulgent avec vos enfants, même chose. Donc il y a une manière de faire qui est biblique. Mais je reviens au message pour maintenant le dernier point. Comment pouvons-nous grandir dans cette belle vie de nous agripper au Seigneur, comme un pagne s'agrippe au rein d'un homme? Le texte dit, ils n'ont pas écouté. Et notre plus grand besoin, c'est d'écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Une vie de dépendance et de confiance vient de ce qu'on entend et ce qu'on apprend au sujet de Dieu, de son amour, de sa suffisance, de sa générosité, de sa puissance, de sa présence immédiate et tout cela. Mais écoutez en 3 sens, et je le dis rapidement. D'abord, nous pouvons écouter la Bible d'une manière légaliste. C'est-à-dire, j'ouvre ma Bible, je lis, et la question dans ma tête, c'est qu'est-ce que je dois être? Et donc, je suis dans le moralisme, ah oui, il faut que je sois là, et je vais l'être. Aucune démarche de s'accrocher au Seigneur, d'être dépendant de lui, c'est juste, soyez ça, ok, je vais tenter. Vous voyez, Dieu n'est pas dedans, la foi n'est pas dedans. Donc, moi, je parle d'une autre manière d'écouter. Quand j'écoute la Bible, c'est une écoute de la foi. Et ça veut dire que quand je lis même un commandement, aimez vos ennemis, je ne dis pas, ok, je vais tenter de le faire tout seul. D'abord, j'admire ce commandement tel qu'il se trouve accompli dans Jésus-Christ. Je le regarde et je dis, ah lui, il arrive à le faire. Il est ce commandement. Je sais où trouver moi de quoi faire ça. C'est lui. Donc, j'ai encore plus besoin de lui chaque fois que je lis un commandement. Et j'ai plus envie de dire, oh Seigneur, je m'agrippe à toi pour que toi, tu me fasses devenir comme ça. Vous voyez? Ça, c'est une manière d'écouter la Bible qui nous amène à s'agripper au Seigneur. Pas une manière moralisante, mais une manière évangélique d'écouter l'appel de Dieu dans la Bible. C'est comme pour moi, en lisant la Bible, toute la Bible a un message. Agrippe-toi à moi, comme le panier s'agrippe au rein de l'homme. Ça, c'est le message de base de la Bible. Et quand je lis la Bible, je veux être dans cette phase. Deuxièmement, chaque fois que vous avez un problème dans votre vie, un problème, quelque chose ne va pas, écoutez cela, c'est la providence de Dieu, écoutez cela comme un appel, vous entendez? L'appel de Dieu. Je t'ai fait t'agripper à moi comme le pagne s'agrippe au rein d'un homme. Chaque problème est un appel de Dieu à toi. Accroche-toi à moi. Viens trouver à moi plus que tu n'as trouvé jusqu'ici. Parce qu'avec ce problème, tu vas devoir découvrir plus en moi. Vous voyez? C'est formidable ça. Au lieu de nous éloigner de Dieu quand il y a des problèmes, parce qu'on ne fait pas confiance, les problèmes peuvent en fait nous rapprocher plus de Dieu. Si on reste dans Jérémie 11, 3, ça c'est mon appel. Tout ce qui arrive, une Bible qui vient devant moi, un problème qui vient devant moi, me donne le même message. Accroche-toi à moi. Troisièmement, vos péchés. Chaque fois que vous péchez, vous devez entendre l'appel. J'ai fait par ma croix. J'ai fait. Que mon peuple s'agrippe à moi, comme le panier s'agrippe au rein de l'homme. Est-ce que vous avez jamais plus besoin de vous accrocher au Seigneur Jésus-Christ que quand vous avez péché? Et vous savez que souvent, vous, les Philistins devant moi, ce que vous faites, c'est ce que je fais. Quand nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous accrochons au Seigneur? Non, nous fuyons, nous cachons dans les buissons, comme Adam et Ève, loin de l'Éternel, et nous cousons nous-mêmes des vêtements pour aller autour de nos reins. N'est-ce pas? C'est exactement la chose qu'il ne faut pas faire. La vie de foi, c'est la vie quand je me sens le plus coupable de me rappeler que cet appel me vient. Que celui qui pêche, que mon enfant qui pêche, vienne. Vous allez résoudre votre péché en allant loin du Seigneur, en faisant un deuxième péché, en refusant de faire confiance à lui comme un sauveur? Vous pensez que ça va vous arranger l'affaire? Non. Accrochez-vous. Agrippez-vous à lui dans le péché. Tant que je me suis tué dans mes péchés, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apaisantait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse. Je t'ai fait connaître mon péché. Je me suis accroché à toi. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. N'est-ce pas? Ça, notre besoin. Que le Seigneur vous bénisse pendant ces semaines d'été et qu'il nous apprenne à tous à vivre Jérémie 11, 13, que je vous relis pour terminer. Comme le pagne s'accroche à la taille de l'homme, d'un homme, j'ai fait que tout le peuple de Dieu devant moi soit pour moi un peuple, un nom, une louange, une splendeur en s'accrochant à moi. Nous allons chanter à l'Éternel en nous préparant pour la fête. Le numéro 120 dans l'orgueil. Viens mon âme et contemple